Alors, samedi 26 octobre, on était 5 à participer à une formation décentralisée à Toul sur la diaconie, sur le thème de la diaconie. Et ce mercredi, il s'avérait que le texte qu'on a étudié à l'étude biblique, le texte de Marthe et Marie, le récit de Marthe et Marie, où il est aussi question de service. Alors, du coup, je me suis dit, logiquement, que j'allais tenter de synthétiser les deux rencontres et puis partager avec vous finalement ce que j'ai pu apprendre sur la diaconie lors de la formation décentralisée et ce qu'on a pu aussi retenir et tirer du texte mercredi lors de l'étude du livre. Alors ceux qui ont participé aux deux, ils auront l'impression de redoubler, mais voilà, j'espère quand même qu'ils retiendront un certain nombre de choses. Alors juste pour l'anecdote, mercredi j'ai eu un SMS d'Elisabeth, c'est pour ça que j'ai mon portable, où elle me met « Marie-Noël, qu'est-ce que tu utilises des formations pour l'édification de l'Église ?» Alors j'ai trouvé ça un petit clin d'œil, puisque je culpabilisais presque de réexploiter des choses, mais finalement non, j'ai eu la confirmation que c'est ce qu'il peut-être fallait-il faire. Alors le titre de la formation samedi 26 octobre, c'était « La diaconie ». Alors Michel, mercredi, m'a dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire la diaconie ?» Alors, on pourrait prendre le synonyme de « service ». Donc la diaconie, le titre, c'était de la diaconie ou manifester concrètement l'amour de Dieu. Donc les diacres dans le Nouveau Testament, globalement, ils sont chargés de l'assistance aux pauvres et ils sont présents dès les premières communautés chrétiennes. Mais la diaconie, elle est aussi présente dans l'Ancien Testament. Le fondement de la diaconie, c'est la compassion de Dieu. La compassion de Dieu pour ceux qui sont dans le besoin. Et dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, c'est un des rares moments dans la Bible où Dieu parle de lui-même. Il donne un portrait de lui-même et il dit que Dieu donne à Moïse, donc il arrive, et il dit « L'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième génération. » Portrait de Dieu fait par lui-même dès le début, Dieu miséricordieux et compatissant. Dans Deutéronome, plus loin, on voit que la diaconie, ce n'est pas juste un concept. La diaconie, la loi très, très vite organise le service aux autres, organise, structure la loi pour le service des plus pauvres. En fait, il y a une organisation de la solidarité, donc Dieu donne des recommandations. Par exemple, il y en a beaucoup, mais j'en ai retiré une. Par exemple, on peut lire « Quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ, tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin, pour la veuve, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout le travail de tes mains. » Une diaconie organisée. Un peu plus loin, on commence à lire des récits avec les rois. On se rend compte que la société elle devient très inégalitaire et que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres, on garde pour soi. Et dans Ésaïe, ça ne change pas. Ouais, dans Ésaïe, j'ai trouvé un texte qui pourrait très bien se lire aujourd'hui. Donc le prophète dénonce, et c'est au chapitre 58, et il dit, on peut s'imaginer là aujourd'hui, « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires, vous exploitez tous vos ouvriers, vous passez votre jeûne en procès et querelle, en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux-ci d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les droits de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime, à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec celui qui a faim, offrir l'hospitalité aux pauvres, aux sans-abri, donner des habits à celui convoi nu et ne pas détourner ton regard de ton prochain. Dès le début, en fait, Dieu, il appelle au service de l'autre. Alors, quand on continue la lecture de la parole, on se rend compte, ben, un des exemples les plus vivants et les plus marquants de la, pour nous d'être au service de l'autre, c'est celui de Jésus. Jésus, ému de compassion pour celui qui croise son chemin, la compassion, point de départ de la diaconie. Jésus, exemple à suivre, qui s'est présenté lui-même comme un serviteur. Il renverse complètement les valeurs. Naturellement, et donc, quand on peut regarder l'histoire qu'on parcourt, techniquement, le service, souvent, c'est un truc de, finalement d'inférieur qui rend service à des grands. C'est celui qui est esclave des autres. Et Jésus renverse cela. C'est le roi serviteur, le ministre serviteur. Et voilà ce que Dieu, à quoi Dieu appelle. Paul aussi le dit dans la lettre aux Galates, il nous préconise « Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre comme des hommes livrés à eux-mêmes. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. » Donc la diaconie, ce n'est pas seulement dans le faire, c'est finalement peut-être aussi dans le savoir-être, les uns en relation avec les autres. Donc on en vient aussi à ce texte qu'on a étudié mercredi, un exemple concret dans le Nouveau Testament de service de deux femmes qui sont au service de deux façons peut-être qu'on peut croire un peu différentes. Marthe et Marie, un récit d'hospitalité qui a fait couler beaucoup d'encre et de peinture. J'ai listé 12, au minimum 12 toiles de ce récit de Marthe et Marie. Donc Jésus, il est en route vers Jérusalem, juste avant ce récit-là. Donc ils ont parcouru déjà beaucoup de villages et ils ont essuyé plus ou moins bonne hospitalité. On peut imaginer qu'ils ont été plus ou moins bien reçus dans les maisons. Et le voilà qui s'arrête avec ses disciples dans la maison de Marthe, où on nous dit, et Marthe, il la connaît bien. Hein, dans d'autres passages, on sait qu'il aime Marthe, il aime Marie. Donc il s'arrête là, et le récit commence à ce moment. Donc je vous lis au chapitre 10. « Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vient s'asseoir au pied de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la bonne part et personne ne la lui enlèvera. » Alors ce récit est assez énigmatique, hein. Il a fait couler beaucoup d'encre. Et je me suis dit, mais quel message a voulu nous laisser Luc en racontant ce récit? C'est uniquement dans l'évangile de Luc qu'on trouve ce passage-là. Que signifient finalement les paroles de Jésus quand il répond à Marthe, ce dialogue? Alors pour l'étude biblique, j'ai fait des recherches. Donc on a pu découvrir mercredi soir que historiquement, dans le Moyen-Âge, traditionnellement jusqu'à l'époque classique, on interprétait ce récit comme la supériorité du spirituel sur le pratique. Donc ça a permis, quelque part, de justifier la supériorité de la vie monastique et de ceux qui consacraient leur vie en se retirant sur celle du monde. Et puis un peu plus tard, donc ça dure, hein, du Moyen-Âge jusqu'à à peu près 15e siècle, et puis Calvin se prononce en disant qu'il n'est pas trop d'accord avec cette interprétation, et puis il dit que peut-être il faudrait prêcher quelque chose de plus équilibré entre ces deux attitudes de Marthe et de Marie, plutôt une spiritualité qui s'exprime dans le quotidien, dans quelque chose de concret, dans notre famille, dans notre métier. au 19e siècle, il vient un nouveau courant avec le romantisme. Puis on a tendance à... J'ai découvert qu'on avait tendance à lire la parole plutôt du côté des caractères des personnages. Et là, on a plein de prédications qui arrivent sur le côté... Marthe et Marie, finalement, c'est deux caractères différents. Et puis, à vous de vous identifier. Il y a les Marthes, il y a les Maries. Et puis, finalement, c'est comme ça, à toi de voir, hein, c'est l'une ou l'autre. Alors ce raisonnement, très vite, il tombe, on l'a vu mercredi soir, parce qu'à un moment donné, quand on étudie de près le texte, on se rend compte que Jésus, il dit de Marie, elle a choisi la bonne part. Donc son caractère, elle ne l'a pas choisi, il est ce qu'il est. Donc cette théorie, très vite, tombe. Alors après, je me suis dit, mince, en préparant l'étude biblique, il va bien falloir qu'on tire aussi quelque chose. Il va falloir que nous, qu'on se positionne, mais en tous les cas, qu'on essaye de voir, nous, comment on peut interpréter et voir les choses en allant un peu plus loin. Les deux attitudes, action et méditation, à mon avis, ne sont pas contraires l'une de l'autre. Elles sont plutôt sœurs, comme le sont Marthe et Marie, elles se complètent. Jésus, il condamne pas l'attitude de Marthe. Pour ma part, il y a quelque chose qui m'a interpellée, je me suis dit, c'est peut-être déjà aussi la question du choix. Je comprends que Marie, elle a choisi d'être au pied de Jésus, au pied du Maître, à ce moment précis. Et Marthe, elle est tiraillée par des multiples services. Elle cherche à être reconnue par son maître. D'ailleurs, elle l'interpelle comme si Marie n'était pas là. Elle lui donne des ordres. Elle dit « Dis à ma sœur ». Elle cherche la validation de Jésus sur ce qu'elle est en train de faire. Et Marie, elle a choisi d'être au pied de Jésus. Elle attend. Et son attitude de choix, elle fait qu'elle est paisible. Marie, elle est paisible. Elle n'envie pas le choix de sa sœur. Alors que Marthe, on a l'impression qu'elle envie le choix de sa sœur. Alors, je me suis dit finalement, est-ce qu'il n'est pas possible de choisir de faire et choisir d'écouter? Et peut-être de demander à Dieu du discernement. Quel est le moment où je choisis de faire et quel est le moment où je choisis d'écouter? Jésus, il ne condamne pas l'attitude de Marthe dans son action. Pas du tout. Marthe et Marie, deux visages, deux présences, deux femmes au service de leur Seigneur, qui reconnaissent Jésus comme leur Seigneur. Deux femmes au service de l'hospitalité, dans les deux cas. Au cœur de cette maison, un lieu de passage où Jésus est passé et s'est arrêté. Deux femmes qui l'ont reçu de deux manières différentes. Dans le contexte, Jésus il monte vers Jérusalem. Ça veut dire que quelque part, il y a urgence à profiter de son enseignement. Et c'est ce que fait Marie. Elle a mis de côté pour être avec Jésus dans une proximité. Elle a choisi la bonne part à ce moment-là. Alors après avoir tourné ce texte dans tous les sens et fait avec nos amis aussi mercredi soir, alors probablement on n'a pas tiré encore tout ce qu'il fallait, mais pour conclure juste, je me suis dit peut-être que c'est ce que Luc a voulu nous laisser dans ce récit. Qu'on n'a pas à choisir entre action et contemplation. Nous avons à demander à Dieu du discernement pour savoir précisément où est notre place à un instant T. Être au bon moment, au bon endroit, paisiblement. Et ne pas laisser passer le coche. Je me suis dit aussi peut-être que Luc, il a voulu nous dire que dans ce texte, qu'on est acteur et responsable du service qu'on rend aux autres. On a des choix à faire à des moments donnés. Et dans la diaconie, est-ce qu'on n'est pas appelés à se poser toujours la question de savoir quelle place on doit accorder à l'action et puis quelle place on doit accorder à l'écoute. Alors je vous laisse là avec un équilibre fragile. Nous voilà posés sur deux piliers, action et écoute, et puis service et don, dont l'un ne peut pas se passer de l'autre, et dont l'équilibre fragile reste toujours à trouver. Alors c'est deux piliers, mais il y en a un troisième, qui est celui que Dieu nous assure de son soutien dans nos choix. Et notre problématique, c'est de le laisser parler et qu'on prenne le temps de l'écouter. Voilà, donc j'ai conscience que j'ai résolu aucun problème, j'ai juste posé des questions. Et donc j'ai aussi ramené les deux grandes affiches qu'on a travaillées pendant la formation, parce qu'il était question de l'église de Darnay. Enfin, chaque église devait un petit peu dire ses points forts, ses points faibles dans la diaconie. Donc je vais les afficher tout à l'heure en sortant, vous pourrez guetter un petit peu le fruit de nos réflexions. Et il y a une autre affiche où on devait donner nos idées, nos obstacles et puis peut-être les perspectives d'avenir pour notre communauté à nous. Et puis chaque église a fait ça. Donc voilà, c'est partager aussi avec vous le fruit de nos travaux. Donc il y avait Edith, Sophie, Elisabeth, Jean-Louis et moi-même. Voilà. Donc bon équilibre à vous. Et bonne semaine.